Nous avons joué à Final Fantasy XVI pendant un mois. Nous allons découvrir en direct nos impressions les uns et les autres. C'est le Café Multiverse et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce 78e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine avec trois nouveaux intervenants, à savoir Sonika. Bonjour Sonika.
Bonjour.
François Cheng, bonsoir. François, je dis bonsoir parce que toi tu es en
Bon.
direct du Japon. Voilà.
Bonsoir et bonjour pour vous.
Et Frédéric Gombert, bonsoir. Bonjour Fred.
Hello.
Donc cette semaine, notre deuxième émission consacrée à un jeu vidéo, puisque le mois dernier, on a fait, au début du mois même, on a fait Zelda, et là, en fin de mois, fin juillet, on va faire Final Fantasy XVI, qui est sorti le 22 juin dernier, c'est-à-dire il y a un mois et un jour exactement. Voilà. Je rappelle le principe de l'émission. Dans une première partie, on va essayer de pas trop divulgacher l'intrigue, de pas vous raconter tout ce qui se passe, ce qu'il y a à découvrir dans ce 16e épisode de la franchise. Et dans la deuxième moitié, on va rentrer dans les détails, dans les spoilers. On va parler de la fin parce qu'on a tous les quatre terminé le jeu. Mais avant toute chose, on va faire comme je fais chaque semaine, c'est-à-dire on va se présenter. Alors, Sonika, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais dans ta vie et surtout, enfin, quel est ton lien avec, on va dire, la pop culture?
Voilà, oui, parce que j'ai un métier qui n'est pas très intéressant, mais à côté de ça, je suis animatrice radio bénévole sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, que je co-anime avec Elodie, que vous avez reçue il n'y a pas
Tout à
longtemps.
fait.
Et je suis également cosplayeuse.
Très bien. François. Bonjour François.
Hello. Moi, je suis développeur web, principalement startup. Donc voilà, je passe mes journées devant mon écran, devant un écran noir à tapoter du code. Quant à ma relation par rapport à la pop culture, comme tu le sais, j'ai commencé en staff à l'époque à Japan Expo il y a très 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 longtemps, 2006, quelque chose comme ça. J'ai commencé ici, ensuite j'ai toujours été beaucoup dans les jeux, énormément de Final Fantasy, de fées, etc. Et bref, je jouais à énormément de jeux de manière générale, un peu trop. Ouais, on peut dire ça. Voilà,
Très bien,
c'est à
merci
peu près tout pour
François.
moi.
Frédéric.
Moi, un petit peu, enfin, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je suis infographiste, mais c'est marrant en fait que François parlait de la Japan Expo parce que j'ai été l'un des premiers photographes de la Japan Expo pour justement les cosplays. Donc, ça rejoint aussi un petit peu Sonika, mais c'était vraiment. Enfin, je me sens un petit peu comme un dinosaure là-dessus. Mais voilà, donc très très fan de pop culture, de jeux vidéo et autres. Voilà.
Voilà. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ma première question, ça va être votre rapport à la franchise Final Fantasy. Quel est-il? Est-ce que vous avez joué à tous les jeux depuis le début? Est-ce que vous les avez fait certains? Ou est-ce que vous les avez terminés? Est-ce que vous avez joué au MMO, au 11 et au 14? Sonika, si tu veux commencer.
Oui. Alors moi j'ai un peu découvert Final Fantasy un peu sur le tard. J'ai découvert avec celui qui deviendra le Final Fantasy de cœur, c'est le 9. Voilà. Donc j'ai vraiment découvert ça. J'étais déjà bien adolescente, voire presque adulte. Hein. Et je suis tout de suite tombée amoureuse de l'univers de Final Fantasy. Donc je me suis du coup j'ai joué à tous les autres d'avant et puis ceux d'après. Et voilà. J'aime beaucoup Final Fantasy, alors j'ai vraiment une préférence pour ceux de la PS1. Hein. Non, je n'ai pas joué à ça en ligne parce que c'est trop chronophage et je me suis toujours dit non, non, on va pas faire ça en ligne. Voilà.
Et toi, François?
Alors, j'ai découvert Final Fantasy avec le 7 sur PlayStation 1. Ensuite, dans l'ordre chronologique de ce que j'ai fait, donc j'ai fait le 7, 8, j'ai sauté le 9. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais me faire assassiner par la communauté.
Ouais, si Marie était là, notre habituée de l'émission, elle te tuerait parce qu'elle adore le neuf.
Je dis pas qu'il est mauvais, j'ai juste deux, trois choses qui sont, dont je ne suis pas fan, c'est deux choses différentes. Mais ensuite, j'ai fait le 10, 10, 2, j'ai fait le 12. Là, ensuite, à partir du 12, je suis retourné en arrière, j'ai fait 6, 5, 4. Et ouais, 6, 5, 4. J'ai pas fait celui en ligne, j'ai pas fait le 15, ou du moins, j'ai joué 2 heures au 15. Après, j'ai fait Final Fantasy XIV avec la pandémie où j'avais tout à coup pas mal de temps libre le soir. Du coup, j'ai fini toute la MSQ, j'ai fait du raid dans Final Fantasy XIV. Du coup, je connais le directeur, je connais le compositeur pour FSS. Enfin, connais. C'est pas la première fois que je vois leurs œuvres. Et finalement, Final Fantasy XVI, donc le mois dernier, où j'ai dosé pendant deux semaines pour le finir.
Et toi, Frédéric ?
Moi, j'ai découvert Final Fantasy avec le 4, à l'époque de la Super NES. Ça a été une grosse, grosse claque parce que c'était... Enfin, pour moi, à l'époque, c'était révolutionnaire. Il n'y avait rien de comparable là-dessus. La seule chose qui s'en approchait, c'était éventuellement Zelda 3. C'est la première fois que j'avais un jeu vidéo où il y avait une histoire, où ça me touchait, etc. Donc, j'ai fait le 4. Je n'ai pas fait le 5 parce qu'à l'époque, il n'était pas sorti aux US. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Final Fantasy en Europe, tout court, donc il fallait prendre des trucs import. J'ai fait le 6, qui reste mon Final Fantasy préféré, le 7 aussi. En fait, je me suis arrêté, enfin, je n'ai pas fait les versions en ligne, enfin, je n'ai pas fait FF11 ni FF14. Je me suis arrêté à FF12, qui m'a un peu déçu, et du coup, en fait, j'avais pas repris le Final Fantasy jusqu'au 16, qui est le premier opus qui m'a vraiment redonné envie depuis très très longtemps, et je regrette pas de l'avoir fait, mais bon, ça, on en parlera plus tard. Enfin, après.
Voilà. À mon tour, pareil, pour moi, Final Fantasy, ça a commencé au 7, sur la PlayStation 1. J'ai pas forcément joué au précédent, déjà par rapport à la barrière de la langue, encore que le 7, à l'époque, je l'avais fait en japonais, même si j'avais pas tout compris. Voilà. Ensuite, j'avais entamé le 8, mais j'avais juste fait la démo, j'avais pas eu l'argent à l'époque pour l'acheter, pareil pour le 9. Ensuite, voilà, j'ai travaillé, donc j'ai pu m'acheter, acheter le 10, et puis je l'ai fini. Le 10-2, je l'ai commencé, mais jamais terminé. Il y a eu le 12, que j'ai adoré, le 12 d'ailleurs. J'ai même racheté récemment en remaster. Le 11, on l'avait fait à l'époque avec ma femme, mais on avait vite arrêté parce qu'il était très, très, très compliqué, très dur, parce que, en fait, quand vous perdez des combats dans celui-là, vous perdez de l'expérience et vous pouvez baisser en niveau. Donc c'était vraiment compliqué d'avancer dans le jeu. Ensuite, le 13, moi c'était la grosse déception. Le 13, j'ai vraiment détesté. Je l'ai refait pendant la pandémie pour le finir parce que voilà, je voulais pas rester sur un échec, mais je l'avais pas du tout apprécié. Alors j'avais beaucoup plus apprécié le 13-2 que j'avais terminé, et le Lightning Returns qui était un petit peu du type Majora's Mask, mais voilà, je n'avais pas trop accroché non plus, mais plutôt par rapport au style de jeu que c'était. Et le 14 pour moi, moi et mon épouse, on y a passé des années, puisqu'on l'a fait quasiment dès le début en fait, mais on n'a pas arrêté jusqu'à la dernière extension, parce que oui, comme le disait Sonika, c'est hyper chronophage, et puis ça coûte aussi, parce qu'il y a un abonnement à payer tous les mois, mine de rien.
Deux abonnements.
Oui, voilà, pour le coup, c'était deux abonnements. Donc, à un moment donné, on jouait l'été, on jouait pendant l'hiver, pendant la période de Noël, etc. Mais on a été un petit peu émoussé aussi par le fait que, comme c'est un MMO, voilà, si vous venez pas pendant 6 mois, vous revenez, tout votre stuff, il est complètement has-been, faut tout refaire. Voilà, et puis il y a les temps d'attente dans les donjons, mais bon, c'est pas forcément le sujet de l'émission. Le Final Fantasy XVI, alors Frédéric, j'ai commencé avec toi parce que tu as dit une chose intéressante, tu as dit qu'il t'avait donné envie de retourner à la franchise, pourquoi ?
Ouais. pourquoi ? Parce que on va dire que FF13, comme j'avais dit au niveau MMO, FF14 m'intéressait, mais j'ai passé la phase des MMO avec des enfants et tout, et un boulot, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Mais c'est vrai que FF13 et FF15, visuellement, thématiquement parlant, c'était pas trop ma cam. Donc là, pour moi, c'était un peu un retour aux sources. Et c'est vrai que le jeu m'avait beaucoup hypé de tout ce que j'en avais vu avant, en termes de présentation. Et voilà, c'est la première fois, en fait, je me disais, ah, tiens, je vais vraiment me le prendre, et je vais me le prendre dès la sortie.
D'accord. Alors, François, tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas aimé le 9. Alors, pourtant, moi, j'ai l'impression qu'au niveau de l'univers, dans le 16, on est un petit peu plus proche du 9, dans l'ambiance. Alors, peut-être pas graphiquement, parce que les personnages sont différents, mais tu peux nous dire, toi, le lien que tu as par rapport à cet univers-là, peut-être l'Heroic Fantasy entre le 9 et le 16?
Typiquement, alors déjà oui, d'un point de vue graphisme, le caractère design est très différent. Maintenant, oui, ça reste très fantasy, mais si je devais relier Final Fantasy XVI à un autre titre Final Fantasy, ce serait plus Final Fantasy Tactics, donc pas la version qui a été release sur Game Boy Advance ou DS à l'époque, non, Game Boy Advance, je crois.
Ouais.
Mais
Oui,
l'original qui
le
était beaucoup plus,
PSP et PS1, ouais.
c'est ça. C'est ça qui était beaucoup plus sombre dans les récits et dans l'histoire, etc. Par rapport au 9, c'est plus une erreur de jeunesse plus qu'autre chose, où j'ai laissé le caractère design. À l'époque, du moins, j'étais très jeune, pardonnez-moi, mais c'est vraiment plus le caractère design où j'avais eu beaucoup de mal à accrocher, surtout venant du 7 et du 8 à l'époque. Je l'ai fait entre-temps, vous inquiétez pas. Je l'ai fait, il n'y a pas de souci.
Et toi, Sonika, le 16, qu'est-ce qui t'a redonné envie d'y jouer du coup?
Alors moi, je prends toujours maintenant les Final Fantasy avec des pincettes parce que celui que j'ai moins aimé, c'était le 15. Et celui-là, je me suis dit, je pense que je vais peut-être pas l'aimer, mais l'histoire me tente. En fait, c'était vraiment l'histoire qui m'a tenté. Et on va peut-être en parler après, mais au niveau de l'histoire, je trouvais qu'il y avait des choses vraiment intéressantes. Ça rappelle, pour moi, ça a rappelé beaucoup Game of Thrones au niveau de tout ce qui est trahison, conflit, etc. Et même personnages. Finalement, c'est vraiment l'histoire qui m'a porté sur le 16.
D'accord. Et au niveau du système de combat, là, t'attendais quelque chose en particulier ou pas? Il y avait des systèmes de combat d'ailleurs que tu préfères dans les Final Fantasy ou que
Oui,
d'autres?
moi je préfère les anciens, les tours par tour.
Ouais.
Donc le combat dynamique, je comprends qu'en 2023, on ne puisse plus faire sur ce genre de jeu du tour par tour. Mais j'ai toujours du mal avec les combats dynamiques. Là, ça va encore. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec le combat dynamique sur le 15, puisqu'il y avait quatre personnages qui tapaient au corps à corps et je n'arrivais plus à voir mon personnage. Là, ça va un peu mieux, puisqu'on a un seul personnage les autres ont tendance à taper à distance, sauf le chien. Mais voilà, j'ai toujours un peu de mal avec le combat dynamique quand même, avec plein d'effets. Je trouve qu'il y a beaucoup d'effets et au bout d'un moment, on n'arrive plus à voir où est son personnage.
Alors, Fred, je t'ai vu tiquer là sur le coup du combat dynamique. T'as quelque chose à dire là-dessus par rapport au tour
Non,
par tour
je disais sur le fait que je peux comprendre qu'effectivement,
Ouais.
enfin moi, tu vois, je suis celui qui a commencé avec les plus anciens, enfin les plus anciens Final Fantasy. Non, mais je peux complètement comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui soient perturbés. Moi, perso, j'ai beaucoup apprécié le combat. Après, comment dire, le truc, c'est que c'est Ryota Suzuki qui a bossé sur le système de combat. Le mec a bossé sur Capcom SNK, Devil May Cry 5, et surtout Dragon's Dogma, qui est un jeu que j'ai absolument adoré. C'est un de mes jeux préférés sur la génération PS3 360. Et donc j'ai beaucoup aimé le système de combat, même si bon, enfin, ça touche aussi. Enfin, c'est un truc que j'ai aimé et en même temps que j'ai pas aimé. Mais ça touche plus en fait à comment dire à l'une des critiques que j'ai par rapport au jeu, le fait qu'on est moins dans le côté RPG que les anciens. Là où par exemple justement Dragon's Dogma, ça restait un jeu d'action-aventure, enfin un action-RPG, mais ça restait quand même un RPG. Là, on a un peu moins cette dimension RPG par rapport à d'autres titres du genre, quoi. Donc moi, c'est juste ça. J'aime beaucoup, mais en même temps, c'est dommage qu'ils n'aient pas gardé un petit peu ce côté RPG dans le mécanique de combat.
Et toi, François, l'abandon du tour par tour, ça t'inspire quoi?
Ça m'avait pas vraiment choqué dans le sens où j'avais déjà vu ça arriver à l'époque du FF12 qui très clairement était pompé sur du MMO à l'époque. Après les FF13, 13-2 et Lightning Returns que j'ai fait aussi, j'avais essayé un peu d'effacer le FF13 de ma mémoire. Mais c'était clairement, ils essayaient de passer sur des systèmes qui étaient beaucoup plus dynamiques. C'était grillé. Et ensuite, avec l'arrivée de FF7 Remake, ils avaient clairement, Square Enix sur les Final Fantasy, je ne pense pas qu'ils retourneront un jour sur du tour par tour comme avant. Je les vois pas. Est-ce que moi ça me gêne? Non, pas particulièrement, dans le sens où d'autres titres maintenant font du tour par tour aussi, typiquement Octopath Travelers, qui font du très bon tour par tour à l'ancienne. Et non, parce que le système marche bien et parce que l'action RPG, c'est pas la première fois non plus que j'en fais. Je suis un grand fan des Tales of aussi, du coup action RPG, je suis relativement habitué, surtout action RPG dans les titres japonais, parce que The Witcher est un action RPG, mais il reste très différent de ce qu'on a avec FF16 par exemple.
Alors c'est amusant que tu parles de The Witcher, parce que moi c'est vraiment le ressenti que j'ai eu tout au long du jeu. Alors peut-être un petit peu moins sur certaines phases à la fin, mais on en reparlera je pense dans la partie spoiler, mais j'avais vraiment vraiment l'impression d'être dans The Witcher. Et finalement moi c'est peut-être le plus gros reproche, et je vais commencer par une chose négative pour parler de Final 16, et alors que c'est pas forcément mon ressenti par rapport au jeu, parce que je l'ai aimé quand même, mais j'ai eu le sentiment que, à l'image de Final 15 à l'époque, il est sorti avec des années de retard. Pour moi, techniquement, il est du niveau de The Witcher 3. C'est tout. Et il va pas au-dessus. Et il y a l'ombre de Witcher 3, pour moi, qui plane sur le jeu tout le long, avec des choses en moins. Avec le fait que ce soit pas un monde ouvert. Alors ça, je voudrais aussi votre réaction sur le fait que ce soit pas un monde ouvert. Est-ce que ça vous a dérangé ou pas? Avec le fait qu'il n'y ait pas forcément des choix dans les interactions, etc. Mais pour moi, j'ai eu l'impression de jouer Final Fantasy rencontre Witcher 3. Voilà, c'était vraiment ça. Plus le fait que y a aussi God of War, dont on n'a pas parlé. Enfin, God of War, pour moi, c'est aussi ce type d'action RPG où on avance, où on n'est pas... Pour le coup, ce n'est pas du tout un monde ouvert. On a une trame, on avance dans l'histoire, on découvre les différentes parties. On peut revenir en arrière quand même un petit peu dans ce qu'on a débloqué, mais finalement, il y a une trame dont on ne peut pas s'écarter, ou très peu, parce qu'il y a quand même des quêtes secondaires, etc. Mais moi, pour moi, ça a été ça, de voir Witcher 3 à travers ce Final Fantasy. Alors du coup, je vous pose la question par rapport au monde ouvert. Sonika, toi, monde ouvert, pas monde ouvert, est-ce que déjà c'est un système de jeu qui te botte? Est-ce que tu aurais voulu voir ça dans Final 16, ou est-ce que finalement, le fait d'être assez scripté, ça t'a plu?
Si je devais comparer aux anciens, alors les anciens, c'est vrai que c'était très couloir et ça dérangeait pas. Maintenant, je crois que je suis très très demandeuse de monde ouvert, surtout dans ce type de RPG. Celui-là, je pense qu'il se prêtait quand même assez au monde ouvert, et malheureusement, ouais, il y a beaucoup de phases couloirs. Et ouais, je trouve ça un peu dommage. C'est ce que je mettrais en côté négatif, c'est le fait qu'il y ait beaucoup trop de couloirs. Et il y a des parties, j'aurais vraiment aimé pouvoir visiter, aller découvrir des coffres cachés ou voilà.
Frédéric, toi, le monde ouvert?
Comme Sonika, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'exploration. Et justement, il y a rien qui pousse en fait à explorer plus au niveau des quêtes annexes, par exemple. Déjà au niveau de la mécanique de jeu, c'est-à-dire que tu fais une mission, enfin sans divulgâcher quoi que ce soit, mais je veux dire, tu fais une mission, tu reviens à ta base, t'as une nouvelle arme qui est dispo au shop. C'est suffisant en fait à chaque fois. Je veux dire, t'as pas besoin d'aller chercher une arme en plus. Et mis à part deux armes, genre la Masamune et la Götterdämmerung, que tu peux avoir à la toute fin du jeu, il y a rien qui te pousse à aller chercher autre chose. Donc en fait, toute la dimension RPG en fait et d'exploration en fait, elle passe un petit peu à la trappe. Ce qui est dommage, parce que si jamais il y avait juste ce petit truc là qui était gardé, le fait que ce soit un peu dirigiste, qu'on soit dans des couloirs, enfin même si c'est des zones semi-ouvertes, ce serait pas dérangeant en soi. En fait, au niveau de la construction, je trouve justement, si on compare avec les tout premiers Final Fantasy, FF4, FF6, ça reste... On a vraiment l'impression que c'est le même style de jeu en fait au niveau narratif. C'est-à-dire, tu vas dans une zone, un donjon, un château ou ce genre de choses, t'as fini, après tu passes à une autre zone et ainsi de suite. En fait, c'était exactement ça. Donc, mais sauf qu'aujourd'hui, on est en 2023 et c'est vrai que tu parlais de Witcher, ça reste une influence majeure du jeu. Je veux dire, Naoki Yoshida en parlait justement dans une interview. Il disait qu'en fait, les deux grosses influences qu'ils ont eues, c'était Game of Thrones et The Witcher au niveau du jeu. Mais je pense qu'en termes de budget, ils n'avaient peut-être pas forcément l'argent ou l'ambition de faire un truc qui soit complètement ouvert comme ça.
Et toi, François, monde ouvert?
Je suis pas forcément un fan, mais je suis pas nécessairement contre. Ce qui me dérange le plus, c'est toute la période aux alentours de 2010, où pas mal de compagnies faisaient juste un monde ouvert pour dire qu'ils faisaient un monde ouvert, mais c'est un monde ouvert où il n'y a rien à faire. À ce niveau-là, je préfère juste avoir un monde fermé, je préfère avoir des couloirs, mais au moins avoir un rythme de la narration, un rythme de la narrative qui a un très bon rythme et qui continue à se développer. Et c'est pour ça que c'est pas nécessairement quelque chose que je reproche à FF16 par rapport à l'histoire, par rapport à sa narration. Ils auraient pu faire mieux, clairement. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui me dérange. Pas pour celui-là, en tout cas.
Alors, c'est vrai, je te rejoins. Moi, je trouve que ça m'a pas trop dérangé, finalement. Alors qu'au début, j'étais plutôt demandeur, comme Sonika, mais je m'y suis quand même assez bien fait. Je trouve qu'il est plutôt réussi à la façon d'un God of War où, voilà, où ça a du sens. On a quand même quelques zones qui sont un petit peu plus ouvertes, qui donnent de la respiration. En revanche, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup cassé, et Frédéric, tu en as un petit peu parlé, c'est le fait de revenir à la base. Le fait qu'à chaque fois, on revienne au camp de base, je trouve que ça cassait le rythme systématiquement. Et alors, du coup, je vais vous faire... je vais vous avouer hein, une chose, c'est que je disais en début d'émission, on a tous terminé le jeu. En fait, je ne l'ai pas vraiment terminé. Plutôt, hier soir, je suis arrivé au boss final, ce qui est le sûr qui est, enfin, j'étais sûr que c'était le boss final cette fois-ci, parce que, comme dans tous les Final Fantasy, il y a plusieurs étapes où on se dit, voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Et là, c'était vraiment la bonne. Et je me suis dit, mince, l'émission est demain, il me reste des quêtes secondaires à faire, j'ai pas envie de les rusher, j'ai pas envie de les perdre, j'ai pas envie non plus de me coucher à 3h du matin. Donc, je vais regarder la fin sur Internet. Donc, j'ai juste regardé la fin. Voilà. Voilà, il a fait voir François qui est en train de se marrer. J'ai regardé la fin. J'ai vu qu'il y avait une heure quand même de boss final, faut le savoir. Voilà. Et entre les cinématiques, etc. Et voilà. Donc, du coup, c'était juste petite parenthèse. J'ai pas vraiment fini le jeu. Il me reste quelques quêtes secondaires à faire. Mais je me suis dit, j'ai déjà joué cette semaine pour essayer de le rusher complètement. Mais voilà. Et du coup, je vais rebondir sur ça pour vous dire qu'il y a un truc quand même qui m'a plu, c'est les quêtes secondaires. Moi, j'ai trouvé qu'elles étaient, elles étaient intelligentes, elles étaient bien faites, elles apportaient vraiment quelque chose au lore, à l'environnement. Alors des fois, dans des jeux, les quêtes secondaires, elles sont beaucoup plus en retrait. Là, j'ai trouvé surtout dans le premier tiers du jeu où on nous présente vraiment la vie de ceux qui ont des pouvoirs. Je ne vais pas en parler davantage dans la partie non-spoiler, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. En revanche, il y a un autre truc qui m'a énormément gêné, je passe un peu du coq à l'âne, c'est le fait qu'on ait un seul personnage. Et ça, à part, enfin même pas, parce que j'allais dire dans le Tactics, mais même dans le Tactics, on a toute une équipe. Et là, ça m'a vraiment gêné, qu'on soit dans un mode de jeu où on n'ait pas le choix de personnage, on peut même pas switcher de l'un à l'autre, où on peut pas choisir qui est sur le terrain, même quitte à pas jouer avec eux. Et ça, vraiment, moi, ça m'a fait me dire, mais mince, est-ce qu'on est vraiment encore dans un Final Fantasy ? Sonika, tu veux réagir à ça ?
Non, je suis d'accord avec toi. Pour les quêtes annexes, moi j'ai trouvé, alors on en a plein vers la fin, mais il n'y en a pas tant que ça au début. C'est un peu au compte-goutte hein, les quêtes annexes au début. Il y a des choses qui apportent, comme tu disais, des choses au lore, des quêtes qui sont intéressantes, mais trop rapides aussi. Et le fait que parfois, bah oui, on revienne à la base, et du coup, bah.
Et puis il n'y a pas forcément de fil conducteur non plus entre ces quêtes-là, à part que certaines oui. Sur le forgeron, bon, j'en dis pas trop. Voilà.
Oui. Non, voilà ce que je pense que les quêtes annexes, j'aurais préféré en avoir plus, vraiment. Et puis des choses qui durent bien plus longtemps aussi, parce que finalement, elles se terminent très rapidement, les quêtes annexes. Et c'est un peu toujours aussi la même chose. C'est-à-dire que bah, y a une quête, on va tuer quelque chose et on va revenir. Ouais. Voilà, il n'y a pas un truc de continuité comme on a pu avoir dans un The Witcher. Ce serait plus là-dessus. Moi, j'aime bien aussi, on n'en parle pas assez, c'est l'ambiance sonore, la musique. Je trouve que la musique est juste magnifique dans ce Final Fantasy. Voilà.
Et sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul personnage jouable ?
Ça ne me dérange pas du tout.
D'accord.
Non, ça ne me dérange pas, là.
Et toi, François, quête annexe, personnage jouable ?
Alors, les quêtes annexes, alors très clairement, comme le disait Sneka, il n'y en a pas énormément. Il y en a, on va dire que leur utilité, on peut se poser certaines questions sur leur utilité. Mais en même temps, je comprends la raison. En fait, l'une des raisons pour laquelle, de mon point de vue, il manque certains contenus, on peut avoir l'impression qu'il manque certains contenus, c'est qu'ils veulent vraiment pousser pour ce qu'ils appellent le MSU, donc la quête principale. Et le truc, c'est si tu offres un monde ouvert et si tu offres des quêtes annexes, tu finis comme Dragon Age, où des gens ont réussi à faire 200 heures de jeu sans avancer dans l'aventure. Et le problème, c'est que Final Fantasy, ils veulent vraiment que tu avances dans l'aventure parce que tu ne peux profiter de l'histoire que si tu le fais à un certain rythme. C'est pas une raison pour pardonner le manque de certaines quêtes annexes ou de manquer certains potentiels, mais de mon point de vue, voilà, c'est vu que c'était Yoshi P, que je sais comment, enfin je suis un grand fan de comment il a traité donc les dernières expansions de Final Fantasy XIV, je m'y attendais. C'est comme le fait que tu n'aies qu'un seul personnage après Lightning Returns, après FF13-2, c'était quelque chose auquel je m'attendais. Donc c'est pas que j'aime pas ou quoi que ce soit, c'est juste que je m'étais déjà fait l'idée, du coup, c'est pas vraiment quelque chose qui m'a sauté à l'esprit en soi.
Et toi, Frédéric ?
Moi, en fait, déjà sur le fait d'avoir juste un seul personnage, ça m'a pas tant dérangé que ça. J'aurais bien aimé, comme tu le disais, en fait, par exemple, qu'on puisse choisir sa composition sur le terrain, même si quand on fait le jeu, on se rend compte qu'il y a des raisons scénaristiques qui font que tu te retrouves avec tel compo et tel compo. Ce qui rejoint là encore une fois les tout premiers Final Fantasy, je repense à Final Fantasy 4 et 6 par exemple, il y avait toujours des raisons pour lesquelles tu avais une certaine compo, voilà. Mais donc ça m'a pas tant dérangé que ça, et je préfère à la limite quelque chose qui soit dirigé et bien raconté ou bien maîtrisé, plutôt que d'avoir quelque chose qui soit, comment dire, où tu aies plus de choix, mais où en fait il y a pas forcément un contenu qui est conséquent ou qui est bien fait, quoi. Pour les quêtes annexes, en fait, moi j'avoue que, à l'opposé de toi qui as fait quasiment toutes les quêtes annexes, moi j'avais commencé à en faire au début et j'avais pas été spécialement enthousiasmé par ça, et je trouvais que ça alourdissait un petit peu le rythme par rapport à la progression au niveau de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait je trouve que l'histoire est excellente dans Final Fantasy XVI, c'est vraiment l'un des trucs qui m'a le plus plu dans le jeu, et c'est vrai qu'en fait j'avais envie d'en savoir plus, et du coup moi j'étais plus motivé en fait à continuer et à aller vers les quêtes principales pour faire avancer l'histoire que de faire les quêtes annexes, parce qu'au tout début, comme je disais, j'avais pas l'impression qu'en fait c'était spécialement motivant, et en termes de contenu au niveau de l'histoire, et aussi en termes de récompense, parce que comme je disais, en fait tu fais une mission principale, tu reviens, en fait t'as une nouvelle arme qui est disponible au shop, donc du coup tu dis bon bah à quoi bon essayer d'avancer davantage, enfin d'avoir plus de ressources, vu que j'ai trouvé quand même le jeu qui était un peu facile. Mais après, de ce que j'en ai entendu, il y a beaucoup de personnes, y compris ici, mais aussi...
Ah, on est en train de perdre Frédéric. Bon, je vais redonner la main à François. T'as pas parlé de la musique, par contre, Sonica l'avait évoqué.
Tu veux dire, moi ?
Oui, ouais. Pardon.
La musique, grand fan de Soken, c'est juste magnifique. L'OST est magnifique. La bande son qui passe durant les combats des Ekon est juste épique. C'est le seul mot que je peux donner. C'est épique. Ouais. Le combat est épique, la musique a été épique. C'est vraiment le mot qui va qualifier pour moi tout ce qui est le design visuel, en tout cas le design visuel et sonore, et qui qualifie l'histoire. C'est épique.
Alors, on a retrouvé Frédéric, enfin juste que je le réinsère dans notre dans la scène. Du coup, je vais passer la main à Sonica. Est-ce que tu peux déjà nous donner un petit premier avis sur le jeu, en fait, hein, une sorte de conclusion générale pour toi?
Le jeu est quand même intéressant. Alors, je l'ai fini. Il faut savoir que moi, j'aime pas finir les Final Fantasy. J'ai toujours une sensation de ça y est, c'est fini. Voilà, je sais la fin. Et ça m'attriste, en fait, de finir un Final Fantasy. Donc là, ça m'a fait exactement la même chose quand je l'ai fini. Je fais, ah, c'est fini. Et je l'ai fini relativement vite pour un Final Fantasy, parce que moi, je mets beaucoup de temps à finir un Final Fantasy, en général. Et je ne vais pas... J'en ai fini très peu, finalement. En fait, c'est un cercle vicieux chez moi. Final Fantasy, au bout de 40 heures, je le mets un peu de côté et puis j'y reviens plusieurs mois plus tard, mais sauf que je ne sais plus où j'en suis, donc je le recommence. Et pareil, au bout de 40 heures, 40, 50 heures, je vais le mettre de côté et puis je vais le reprendre des années après. Et en fait, c'est un cercle vicieux et j'aime bien faire ça, en fait. J'aime pas les finir, j'aime pas savoir la fin. Et bon, là, sur ce Final Fantasy, je trouvais que l'histoire était vraiment... C'est ce qui m'a plu le plus dans ce Final Fantasy. Et je voulais vraiment savoir la fin. Je voulais vraiment qu'est-ce qui va se passer à la fin. Et voilà, maintenant que j'ai vu, voilà, je sais, et je suis déçue quand même. Mais bon. après, voilà, le combat dynamique, on aime ou on n'aime pas. J'accroche pas plus que ça. Alors, je sais pas si vous vous êtes mis en mode... Il y a deux modes de jeu. Il y a un mode histoire et un mode combat. Moi, je me suis mis en mode histoire parce que, évidemment, je portais pas plus attention que ça au combat. Je l'ai trouvé très facile. Alors, est-ce que c'était parce que j'étais en mode histoire, mais je ne sais pas si vous êtes mis en mode combat, si vous avez ressenti ça.
Même en mode combat, moi, je l'ai trouvé facile. Hein. Pourtant, facile, je ne suis pas voilà. Très, très doué, mais voilà.
Voilà, j'ai trouvé les combats faciles. Ce que j'ai aussi aimé, alors je ne sais pas si ça va être un spoil, mais ça se voit en début de jeu, c'est le fait d'être un primordial. Et on a l'impression d'être tout puissant, d'avoir cette puissance quand on devient un primordial. Et j'aime bien cette sensation un peu de puissance, même si je trouve qu'il y a un peu trop de QTE. Mais bon. Moi, je trouve, voilà, c'est pas un mauvais Final Fantasy. Maintenant, je le placerai pas dans les meilleurs que j'ai pu jouer. Mais il est totalement jouable et l'histoire est vraiment prenante, pour le coup.
Et tu le situerais où par rapport... si tu devais faire un top 3, est-ce qu'il est dans le top 3
non.
Ou pas, même pas? D'accord.
Non, il est pas dans le top 3. Non.
D'accord. Mais tu le recommanderais quand même à quelqu'un
Je le recommanderais quand même à quelqu'un, même à quelqu'un qui n'a jamais joué à Final Fantasy, parce que là, on est quand même dans un univers très mature. Finalement, il n'y a pas... quand on voit ceux de la PS1, par exemple, il y a toujours des petits clins d'œil amusants. Il y a toujours des petites choses un peu rigolotes. Là, il n'y a pas de choses drôles, en fait, dans cette histoire. On est vraiment dans un contenu mature. Il faut signaler aussi que ce Final Fantasy XVI, c'est le premier Final Fantasy PEGI 18 aussi. Ouais. Et là, on est vraiment dans un contenu vraiment très mature, très sérieux.
Frédéric, qui est revenu parmi nous, tu veux nous donner ton avis, ta conclusion
Sur le jeu, donc.
Oui, voilà.
Moi, c'est pas mon jeu de l'année. Jusque-là, je mettrais plutôt Hogwarts Legacy devant pour le moment. Mais ça reste un très très bon Final Fantasy. Pareil, je sais pas si je le mettrais dans le top 3, peut-être dans le top 4 de tous les Final Fantasy auxquels j'ai joué.
Tu mettrais lesquels avant?
Après, pour moi, mon préféré, ça reste Final Fantasy VI. Mais bon, c'est faut remettre dans le contexte. Oui, je dirais Final Fantasy VI. Après, je mettrais peut-être FF4 et FF7 au même niveau. Et honnêtement, je pense que je mettrais FF16 quasiment au même niveau. En fait, je les mettrais les trois au même, dans le même classement. Parce que j'ai adoré l'histoire. L'histoire, franchement, c'est certainement l'une des meilleures histoires de Final Fantasy, juste après le 6, pour moi. Après, le système de combat était très sympa. Moi, ce que j'ai regretté, c'est le fait que c'était trop facile. Donc, y a plein de possibilités. Les systèmes de jeu, justement, en fait... quand on commence à avoir acquérir certains pouvoirs qui changent carrément les movesets, en fait, il y a des perspectives, enfin il y a des tactiques de combat qui sont vraiment géniales. Je ne vais pas donner de nom parce que on va peut-être en parler un peu plus dans la partie spoiler. Mais il y avait vraiment des approches qui étaient complètement différentes, avec beaucoup de high risk, high reward. Mais le problème, c'est qu'en face, il n'y avait pas forcément le challenge qui allait avec. Donc du coup, ça faisait que le combat était quand même assez, je ne vais pas dire rébarbatif, mais il était un peu mou. Enfin, mou. Je veux dire, c'est juste parce que le challenge n'était pas à la hauteur en face. Et c'est vrai, je rejoins Sonika sur les phases où on incarne on se transforme en primordial. C'est du régal. Franchement, moi le gamin qui sommeille en moi, en fait, je me disais, oh là là, si jamais on avait eu ça à l'époque. Et même objectivement, je veux dire, ça reste, c'est du, comment dire, c'est un superbe dessert, quoi. Mais justement, c'est un petit peu ça pour moi, Final Fantasy XVI, c'est-à-dire que c'est... c'est pas de la haute gastronomie, mais c'est comme quand tu vas au resto pour prendre un bon bœuf bourguignon. C'est-à-dire que tu sais à quoi t'attendre, c'est bon, t'es content d'avoir mangé ça, mais c'est pas non plus forcément où tu dis « Oh là là, j'ai mangé un truc révolutionnaire, oh, c'est super bon, machin, etc. » Voilà. Donc voilà la comparaison.
C'est une super conclusion. François, ton avis, toi, générique sur le 16?
J'ai beaucoup de mal à donner une note globale sur le jeu, parce que j'ai tendance à juger mes Final Fantasy sur différents critères. Si on parle d'un point de vue histoire, pour moi, il est dans le top 3. Il est dans le top 3, on va dire deuxième. FF6, pour moi, est le top 1 au niveau de l'histoire. Mais par contre, il est deuxième. Mais par contre, d'un point de vue, comment dire, rythme et scène épique, oui, FF6 est premier. D'un point de vue épique, où on se sent, comme je disais, donc tout-puissant, quand tu dis un primordial, ou quand tu passes de « je vais faire 1000 dégâts » à 10 millions de dégâts en un coup. Ouais, je me sens bien tout d'un coup, là, je me sens puissant. Donc, d'un point de vue histoire, très clairement, d'un point de vue histoire, rythme, etc. Et visuel, d'un point de vue, les effets visuels sont très beaux du Royaume Combat. Le reste du monde, ça dépend d'où on est. Donc là, sur ce point-là, t'as 3. D'un point de vue gameplay, c'est lambda, il est pas mauvais, il est pas révolutionnaire, clairement. Il est ok, mais je m'attendais, sachant que les FF essayent de plus de se réinventer sur le game system, etc. Je m'attendais à quelque chose de plus profond et de plus différent. Là, j'avais vraiment l'impression d'avoir une version un peu plus adoucie d'un Devil May Cry, plus qu'un truc qui a essayé de prendre quelque chose qui existait et qui a développé un truc par lui-même. C'est un peu déçu, mais voilà.
Avant que je fasse ma conclusion, j'ai envie de remettre une pièce dans la machine parce que c'est habitude, c'est Greg Dyser qui fait ça dans l'émission, mais aujourd'hui je vais m'y coller. J'ai quand même le sentiment que ce, enfin, que ils ont du mal eux-mêmes à définir ce qu'est un Final Fantasy. Je sais pas ce que vous en pensez. Sonika, tu veux commencer là-dessus?
Là, on est dans des choses quand même super différentes de ce qui avait été proposé au début. Est-ce qu'on s'éloigne pas déjà de l'univers Final Fantasy du départ? Est-ce qu'on n'est pas dans un jeu finalement qui est nouveau, qui se réinvente une histoire? Peut-être, moi je pense.
Toi, Frédéric?
Moi, au contraire, je trouve qu'on revient vraiment à la racine. Enfin, même si l'emballage est différent, si le gameplay est différent, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur du tour par tour. Moi, très honnêtement, quand je jouais à Final Fantasy XVI, à plein de moments, je me disais, putain, mais en fait, j'ai l'impression de revenir en fait, à quand je jouais à FF4 ou à FF6. Justement, avec cette espèce de rythme de, tiens, on va dans un donjon ou un château, on revient à la base ou on revient dans une ville, et ainsi de suite. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il y a vraiment une volonté de la part de Square Enix de coller au marché actuel, de se réinventer. Et je rejoins François là-dessus, je pense que c'est pas encore complètement maîtrisé. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'aller vers quelque chose, je pense qu'ils tatillonnent, je pense qu'ils se disent, tiens, ça devrait marcher, ça devrait plaire. Mais ouais, il y a quand même, j'ai l'impression qu'ils sont pas encore complètement sûrs d'eux, sur la direction qu'ils veulent donner au prochain Final Fantasy ou à la saga.
Toi, François?
Si la question c'est est-ce que c'est un Final Fantasy ou pas, pour moi, oui, pour la simple et bonne raison que c'est marqué, et pour la simple raison qu'il n'y a pas d'autres critères pour un Final Fantasy. Le game system a toujours changé, les histoires ont toujours été très différentes. On est passé à des histoires où il y avait des psychopathes qui veulent juste voir le monde brûler, à bon, on va voir des Magical Girls, FF10-2. Est-ce que c'est un Final Fantasy? Bah oui.
Voilà.
Voilà. Mais par contre, ce qui était différent, c'est qu'ils ont toujours essayé d'avoir au moins un truc qui change. C'est un gameplay qui est différent, un gameplay différent du titre d'avant. Ils ont tous essayé d'avoir leur propre univers, ou du moins d'avoir leur propre approche de l'histoire. C'est-à-dire que les titres ne sont pas coordonnés entre eux. Et quand ils le sont, c'est généralement des Easter eggs, plus que quelque chose qui est officiel. Sur ces critères-là, enfin, une fois qu'on élimine tous les critères que les gens invoquent par rapport à ouais, non, mais c'est pas, il n'y a pas de jauge ATB et compagnie, ouais, mais c'est pas le premier à ne pas avoir de jauge ATB et compagnie. Au final, ce qui reste, c'est un titre, un fantasy, c'est un chiffre. Ouais, bah voilà. C'est vraiment pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Et je suis quelqu'un qui est relativement ouvert sur les différents types de gameplay. Du coup, moi, ça me dérange pas.
Alors, ma conclusion, elle va être en fait un peu un résumé de ce que vous avez dit. Déjà, on va commencer par l'histoire. Effectivement, l'histoire, elle est épique et elle m'a vraiment pris de bout en bout. Et notre première émission sur les jeux vidéo dans le Café Multiverse, c'était sur Zelda. C'était donc d'ailleurs avec Elodie, la binôme de Sonika. Et moi, ce qui m'avait choqué dans Zelda, c'est que finalement, il y a très peu d'histoire. C'est un monde ouvert où on peut faire un peu tout ce qu'on veut dans n'importe quel sens. Et c'était trop. Et c'était trop. Je me dis, ce Zelda, je l'ai mis de côté. Pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce que j'y retournerai, mais je sais qu'il va me falloir des mois, peut-être des années pour le finir. Là, je sentais que j'étais sur les rails. Je savais à peu près dans quelle direction ça allait. Et sans arrêt, j'avais envie d'en savoir plus. Je me suis pris au jeu. Et à partir du moment où j'ai posé Zelda pour commencer Final 16, je ne me suis plus arrêté, en fait. J'ai vraiment été au bout. Donc, ne serait-ce que par rapport à l'histoire et par rapport, effectivement, au combat épique, là, ils ont vraiment réussi à... Je pense qu'ils ont tiré l'un des meilleurs de ce qu'ils ont réussi à faire par rapport aux invocations. Alors, après, ils ont changé de nom quasiment à tous les épisodes. Hein. Mais c'est vraiment quelque chose de génial ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, c'était un reproche que j'avais dans Final 14. Je trouve que les invocations étaient un cran en dessous. Alors que là, on est vraiment dans du démesuré. On se bat en étant Ifrit. Voilà, donc, comme tu disais, François, on fout des coups à 1 million. C'est assez jouissif. Après, moi, le bémol que j'ai à faire d'une façon générique, c'est que, bon, effectivement, le gameplay a peut-être à revoir. Peut-être à se rapprocher de quelque chose qui est plus proche de Final Fantasy VII Remake, voilà, des choses qui soient un peu plus JRPG, on va dire comme ça. Avec peut-être une bonne chose, c'est sur les potions. J'ai l'impression que c'est le premier Final Fantasy où les potions sont utiles à quelque chose. Voilà. Là, franchement, j'ai eu à les utiliser. Donc, bon, voilà, j'étais heureux. Mais globalement, moi j'ai eu le sentiment qu'ils n'ont pas pris énormément de risques. Il y avait la gamelle du 15 derrière, enfin en tout cas la gamelle affective du 15 qui était derrière, que les gens n'avaient pas forcément trop apprécié le volet. On parle même pas du 13 d'avant, on parle même pas des échecs entre les deux du 15 qui aurait dû être la suite du 13 dans une trilogie. Bon, bref, on va pas parler de tout ça. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'ils avaient besoin de sauver les meubles, besoin de se rassurer eux-mêmes, besoin de rassurer aussi le marché, les fans, etc. Et de se dire, bon, bah, on va prendre l'essentiel, on va essayer d'en faire quelque chose de cohérent. Et là, pour le coup, c'est réussi. Alors effectivement, mis à part l'histoire, le côté sur les primordiaux, il y a rien qui sort du lot plus que ça. Il y a des jeux qui sont meilleurs sur cette tranche du type, voilà, on parlait de Dragon's Dogma, on a parlé de God of War, on a parlé de The Witcher. Il y a des jeux pris indépendamment qui sont meilleurs que lui sur plusieurs points, pas sur tous. Comme on disait, l'histoire et le côté épique, c'est quand même vraiment hein, quelque chose qui est hyper costaud sur Final Fantasy XVI. En revanche, sur le reste, oui, voilà, il y a une amélioration à faire, mais j'ai envie de dire, la conclusion, c'est on est en bonne voie et vivement Final Fantasy 17. Et sans transition, on passe à la partie spoiler. Alors, je vais commencer par un petit coup de gueule. Je trouve qu'on en sait beaucoup trop, trop dans les bandes annonces, dans les visuels promotionnels, et puis aussi très tôt dans le jeu. Et en ce sens, on parlait de l'histoire. Je trouve que autant l'histoire, elle est super, autant je trouve que elle est mal écrite. Je le dis comme ça, parce que ne serait-ce que les primordiaux, bon, au bout de 1 heure de jeu, on sait qui a quel primordial. Voilà, donc c'est à aucun moment c'est une surprise. On sait lesquels existent. Il n'y en aura jamais un nouveau qui va arriver dont on n'avait pas entendu parler. Alors là, je veux François avec Wikipédia, je te donnerai la parole juste après. Ensuite, il y a le frère. Tout de suite, enfin, on veut dire, si t'as un minimum de jugeote, t'as compris que c'était toi qui l'avais tué, que tu t'étais transformé en Ifrit. Et c'est comme ça tout le jeu, il y a vraiment que la scène finale avec le décès du frère qui m'a touché. Et même là, les retrouvailles entre deux, moi, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que ça n'allait pas parce que nous, en tant que spectateurs, en tant que joueurs, on savait déjà qu'ils allaient se retrouver. On voyait que leur chemin, au bout d'un moment, allait se recroiser. Enfin, on les voyait chacun de leur côté. Donc, quand ils se sont retrouvés, moi, je n'ai pas été touché. Alors que pourtant, j'ai le mouchoir facile. Hein. Mais ça m'a pas touché. Il a fallu vraiment attendre cette scène finale au tout dernier combat, à la fin, pour que je ressente quelque chose. Et moi, ça m'a. C'est tout ça. C'est ce manque de surprise, moi, qui m'a un petit peu quand même gâché le fond du plaisir. François, tu voulais réagir?
Non, tu sais, ouais, il y a strictement aucune surprise sur les invocations, sur les primordiaux qui existent. C'est pour ça qu'on a des DLC. C'est pour ça qu'on a des DLC. Et oublie pas que quand tu regardes sur la carte, on a quoi, environ 30% de la carte qui n'est pas, que tu ne peux pas visiter à cause de, je sais pas comment on l'appelle en français, en anglais c'est blight, de l'infestation ou
Ouais.
ça. Donc il y a ça et le fait qu'ils adorent jouer avec les time jumps. Typiquement, on pourrait très bien imaginer un DLC qui se passe 15 ans avant le vrai début de l'aventure d'un point de vue temporel dans la FF16, qui pourrait nous permettre de visiter donc, les cristaux qu'on ne peut pas visiter parce qu'ils sont dans ces zones-là. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé sur ces cristaux-là. Donc, ouais.
Voilà, il y a Fred qui lève le doigt, il va en rajouter quelque
Non,
chose.
je voulais juste embrayer sur ce que disait François, c'est-à-dire qu'en fait, dans le mural, enfin dans les peintures qu'on voit sur les fresques, il est mention de Léviathan qu'on ne voit pas, qui a priori, en fait, il y a pas eu de confirmation là-dessus, mais en fait, moi j'ai fait le jeu en anglais aussi comme François, donc je sais pas en fait quel est le terme qui est appliqué là-dessus, mais il y a une race qui s'appelle The Fallen qui s'était rebellée contre Dieu. Dont il est fait mention dans le jeu, je crois qu'ils en parlent davantage dans les quêtes annexes, mais où justement, en fait, je pense que justement, Léviathan était le primordial de cette race-là, et que du coup, peut-être que dans le DLC, on verrait justement cette histoire qui se passe largement avant le début de l'histoire. Mais moi, au niveau de l'histoire, pour moi, effectivement, il n'y a pas beaucoup de surprises. Mais encore une fois, je reprends mon analogie du beurre bourguignon. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, si jamais tu as un minimum de culture vidéoludique et cinématographique, tu sais, enfin, y a pas vraiment de retournement de situation où tu dis, oh là là, mon Dieu! Comment dire, moi, au tout début, je voyais vraiment l'influence de Game of Thrones et je croyais en fait tout le monde allait crever. Je me disais vraiment, après le prologue, en fait, je me suis dit, c'est bon, en fait, tout le monde va mourir. Surtout en plus quand tu vois certains. Bon, là, de toute façon, on est parti dans la partie spoil, donc on peut se lâcher un peu. Mais quand tu vois justement certains primordiaux qui se font tuer, comme Benedicta, comme d'autres, et j'ai été surpris de voir que justement, on regagnait un petit peu d'espoir et un peu. On touchait davantage en fait à la thématique principale du jeu, sur le libre arbitre, sur la volonté, sur le fait de se battre justement contre la fatalité, contre le destin, qui était très très mise en avant jusque dans les mécaniques du jeu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, chaque ennemi qu'on rencontre a une barre de volonté qu'on peut casser, et après en fait ça fait que l'ennemi il est comment dire en mode staggered, enfin il est
Il
je
est
suis une
sonné.
dormalite. Voilà, il est sonné, et du coup voilà, et ça rejoint justement les thématiques qui sont mises en avant par Ultima quand justement il veut briser la volonté des humains et en particulier de Mythos. D'ailleurs, au passage, Ultima et Mythos, ben, en latin, ça fait littéralement Final Fantasy. Donc j'ai trouvé ça marrant. Mais moi, le principal ou le seul reproche que j'ai au niveau de l'histoire, c'est le traitement en fait de, je crois qu'elle s'appelle Annabella, la mère de Joshua et de Clive, qui reste quand même l'étincelle de départ juste pour l'histoire de Clive et de Joshua sur la trahison qu'elle fait. Et j'ai trouvé que son arc scénaristique était un peu léger, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit pourquoi en fait elle a fait ça quand elle est confrontée à Clive et à Joshua, en fait, elle dit ah, et tu dis bon, bah, tout ça pour ça. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus, quoi, là-dessus. Mais sinon, oui, le reste, ça reste très convenu, mais ça reste bien fait.
Sonika, je crois que tu as dit tout à l'heure toi, que tu avais été déçu par la fin. Et...
Ouais, je suis déçue. Enfin, en fait, je suis plus déçue le fait d'avoir une fin et de finir comme ça, en fait. On a envie de savoir plus sur l'histoire principale, qu'est-ce qui se passe pour les autres, quoi. Qu'est-ce qui va se passer finalement après cette fin? Est-ce qu'ils vont reprendre un rythme de vie normal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est toute l'histoire qu'il y a autour des pourvoyeurs, que je trouve vraiment très intéressante. Au début, on ne sait pas trop ce que c'est, Et puis peu à peu, on commence à comprendre ce que c'est. Et puis tout ce racisme contre ces pourvoyeurs. Il y a vraiment des choses que j'ai adorées dans ce genre d'histoire, que je trouvais très intéressant. Et là, je me demande à la fin, qu'est-ce qui va advenir de ces pourvoyeurs finalement, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Il y a plein de choses que j'aurais bien aimé savoir, avoir une petite suite supplémentaire, on va dire, par rapport que le personnage principal, on va dire. Donc, c'est un peu ça, mais je rejoins aussi les avis de François et de Frédéric sur le fait que très tôt, on sait déjà ce qu'on va faire, hein, les cristomères, quand on en détruit, bon, on sait qu'on va tous les détruire, de toute manière. Après, sur Ultima, il y a des choses que j'ai trouvées plutôt pas mal, il y a toujours des choses un peu, comment dire, qui ne sont pas très claires autour d'Ultima aussi. Il y a des choses que je ne trouve pas très claires.
Je trouve que c'est typique un petit peu des jeux japonais en général, c'est que des fois, ils font des choses tellement alambiquées, on a l'impression qu'ils se perdent eux-mêmes. D'ailleurs, Ultima, finalement, il veut le corps de Mythos, mais à la fin, bon, c'est pas grave, je vais reprendre mon ancien corps, finalement, si on va se battre.
Oui, c'est ça.
J'ai trouvé ça... excuse-moi, j'ai pas bien compris pourquoi t'as pas fait ça depuis le début, du coup. Enfin, il y a vraiment des choses comme ça qui m'ont un petit peu gêné, quoi. Frédéric.
Non, justement, il y a une explication sur le fait que l'une des raisons pour lesquelles Ultima veut le corps de Mythos, c'est justement pour pouvoir utiliser les aptitudes du corps de Mythos pour pouvoir lancer le... Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait un nom. En fait, il veut lancer une espèce de sortilège qui est trop puissant pour son propre corps à lui pour pouvoir recréer un nouveau monde qui ne serait pas touché par de Blight, le fléau qui touche le truc. D'ailleurs, c'est rigolo au niveau de l'histoire, en fait, de se rendre compte qu'il y a effectivement des inspirations de Game of Thrones, mais aussi du coup de H2G2 sur le fait que la race extraterrestre, en fait, de H2G2, en fait, qui est mise en avant, en fait, avait créé toute une planète en tant qu'ordinateur pour pouvoir générer en fait la réponse ultime. Et du coup, il y a ce côté-là, c'est-à-dire qu'en fait, la seule raison pour laquelle tout le royaume a été créé, tout ce monde-là, c'était justement pour pouvoir avoir un vaisseau suffisamment puissant pour pouvoir générer ce sortilège de haut rang. Donc là-dessus, je pense que c'est un peu... Il y a effectivement des trucs qui sont un peu alambiqués, qui ne sont pas forcément expliqués, mais sur ce côté-là, le fait que Ultima reprenne son corps, c'est parce que, de toute façon, il n'a pas le choix pour essayer de battre Mythos, mais il a quand même besoin ou envie d'avoir le corps de Mythos pour avoir son but ultime, quoi.
On arrive déjà vers la fin de l'émission. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter par rapport au jeu, par rapport aux spoilers, par rapport au système de combat, par rapport à vos espoirs, peut-être pour la suite? Quelqu'un veut mettre le mot de la fin, Sonika?
Moi, je dirais que ce jeu, il faut le tester, voilà, pour savoir si on aime ou on n'aime pas. Il n'est pas mauvais, il n'est pas non plus, c'est pas le jeu de l'année, hein, comme avait dit Frédéric, mais il se joue bien, l'histoire est intéressante, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Moi je pencherais plus pour le dire aux autres personnes qui hésitent à y jouer, allez-y quand même.
Très bien. François ?
Je vais juste passer un tout petit coup de gueule sur leur histoire.
Vas-y.
Il est impardonnable que Torgal n'ait pas eu plus de 10 secondes de scène de réunion avec Live, alors que le Chocobo l'a eu. Non, je suis pas d'accord. C'est quelque chose de... J'ai commencé le jeu, j'ai passé cette tête, j'ai fait... C'est tout. Et ça m'est resté dans la tête les 60 heures d'après. En dehors de ça, non, FF7 pour moi très clairement va marquer marque. Enfin, FF15 et 16 marquent d'un point de vue gameplay ce vers quoi Square Enix essaie de se diriger. Pour moi, c'est vraiment une vitrine pour ce qui va arriver dans le futur, même si ce ne sera pas vraiment exactement la même chose. À mon avis, ils vont tirer énormément de leçons de ça, et du coup j'attends vraiment le 17 sur ce point-là, peu importe quelle équipe chez Square Enix va le faire. Est-ce que c'est le jeu de l'année? Pour moi, oui, parce qu'il m'a vraiment fait sentir épique. Les hauts sont vraiment hauts, les bas, on va éviter d'en parler. Mais les hauts sont vraiment hauts.
Frédéric, pardon, vas-y.
C'est ça.
Non, t'avais
C'est
pas
juste
mis.
qu'ils utilisent, en fait le fait qu'il y a énormément de scènes épiques pour un peu mettre énormément de choses, pour un peu planquer énormément de choses sous le tapis, donc tout ce qui n'est pas forcément très bien fini ou quoi que ce soit. C'est... Bon, on va mettre ça là dans le côté, concentrez-vous sur les bling-bling ici qui vous sentir bien. Le reste, c'est juste. Bon. Donc voilà.
Frédéric, tes espoirs pour la suite?
Moi, je rebondis sur ce que disait François, c'est-à-dire que je suis d'accord avec lui, les hauts sont absolument magnifiques, et si jamais le jeu était aussi égal dans les hauts que dans les bas, ce serait mon jeu de l'année. C'est-à-dire que vraiment, l'aspect épique du jeu est vraiment, vraiment génial. Moi, c'est vraiment le jeu qui m'a réconcilié avec la saga, parce que j'avais l'impression que j'étais plus le public en fait pour les Final Fantasy depuis déjà très très longtemps, et là du coup maintenant je suis à nouveau fan de la direction que prend Square Enix avec Final Fantasy. J'attends le FF17 avec impatience, et juste une chose que j'avais oublié de dire, je trouve dommage en fait qu'au tout début du jeu, quand en fait on se retrouve en plein milieu de l'affrontement entre Shiva et Titan, il y a vraiment en fait on voit les conséquences des affrontements, et en fait ça donne une dimension assez grandiose en fait à l'impact qu'il y a en fait quand deux primordiaux s'affrontent, et je trouve ça dommage en fait qu'on n'ait pas retrouvé ça à d'autres moments dans l'histoire, comme par exemple je sais pas moi Clive qui réussit pas à se transformer en Ifrit, et du coup en fait il y a Titan qui est en train de tout dégommer, et en fait on est obligé d'aller d'un point à un autre jusqu'à ce qu'en fait il réussisse à finalement se transformer. C'est dommage qu'on n'ait pas eu à nouveau ces trucs là parce que je trouvais que ça apportait beaucoup en fait pour réaliser justement la puissance des primordiaux et l'impact que ça pouvait avoir justement sur le monde.
Ouais, c'est un petit peu la conclusion générale, c'est-à-dire que finalement ils sont sur la bonne voie, voilà, je pense qu'ils se sont remis sur les bonnes rails, maintenant il va falloir qu'ils prennent un petit peu plus de risques, qu'ils consolident tout ça, et puis bah, pour qu'on ait un Final Fantasy XVII qui nous fasse tous rêver. Et sans transition, je vous propose de passer aux recommandations de la semaine. Sonika, que peux-tu nous proposer?
Alors, moi, je vous propose non pas un bouquin, mais une série de bouquins. Si vous aimez les animés japonais, surtout japonais, eh bien, il y a un bouquin qui est sorti il y a 2 ans et qui continue encore, puisqu'il y aura 8 volumes. Donc, c'est l'Encyclopédie des animés.
D'accord.
Voilà, que j'en ai deux, là. Donc, j'ai celui de 1963 à 1979. Et celui de 1980 à 1988. Donc ça, c'est les 2 premiers volumes. Dedans, vous allez pouvoir retrouver énormément de choses au niveau des animés, notamment ben, le petit résumé. Je vous montre quand même. Voilà. Le petit résumé vous avez le nom en japonais, le nom en français, le nombre d'épisodes. Vous avez vraiment un petit descriptif assez complet sur les animés, et le volume 7 sortira en septembre, et le volume, il y en aura 8 en tout, voilà, qui seront de 63 à nos jours. Voilà, moi je vous conseille ça, si vous aimez vraiment le monde des animés, c'est chez Inis Edition, ils font des super livres, ils font pas que des livres sur les animés, il y a aussi du Zelda, du Final Fantasy, voilà, c'est une super maison d'édition.
Très bien. François, ta recommandation, s'il te plaît.
Ce ne sera pas en connexion avec le Japon, parce que depuis que je suis au Japon, je ne regarde et je ne lis quasiment plus de manga ou animé. Ironique. Voilà. Mais au niveau série, Star Trek, donc Strange New World et Lower Deck. Magnifique série. Je le conseille à énormément de monde et beaucoup aussi aux nouveaux... aux nouveaux fans de la série ou des gens qui ne connaissent pas nécessairement la série de manière très profonde. Ce sont deux très bonnes séries qui sont très abordables.
Tout à fait. En plus, c'est vrai que Star Trek, c'est Strange New Worlds, elle revient vraiment aux origines de la série des années 60. On se retrouve vraiment dans ce type de série épisodique avec un peu la Stargate où on découvre un monde et une logique à ce monde à chaque épisode, et c'est vraiment super intéressant. Frédéric?
Juste 2 petits trucs. Le premier, c'est en rapport avec ce qu'on discutait sur le Final Fantasy. Moi, je recommanderais Dragon's Dogma à toutes les personnes qui ne l'auraient pas testé, parce que c'est un excellent jeu. Là, justement, il y a une suite qui est en préparation, donc voilà. Si jamais vous avez aimé le combat de Final Fantasy XVI et que vous avez envie d'avoir quelque chose d'un peu plus abouti et de plus... voilà, je recommande Dragon's Dogma. Et l'autre, ça n'a rien à voir, mais c'est juste un film que j'ai été voir la semaine dernière, c'est le dernier Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, qui est excellent. Voilà, si jamais vous avez envie de vous divertir, de passer un bon moment au cinéma, voilà, je recommande très fortement.
Alors, j'allais recommander aussi Mission Impossible, mais j'avais prévu deux recommandations aujourd'hui, voilà. Je savais que tu avais bien aimé, je me suis dit, il va peut-être la sortir, il faut que j'en ai une deuxième sous le coude. Effectivement, je vous recommande, il est vraiment excellent et en rapport avec les problématiques du moment, voilà. Et moi, ce que je vais vous recommander, vous allez le voir en mode miroir si vous nous regardez, c'est Dragon Quest 11. Qui pour le coup, lui, est un JRPG à l'ancienne, même s'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Alors c'est quelle année déjà, mais ça devait être 2018, je ne sais plus, je ne trouve pas la date. Ça restait du tour par tour, et pour le coup, c'est Dragon Quest, c'est un peu l'antithèse de Final Fantasy, puisque eux, ils ont toujours été réguliers dans ce qu'ils proposaient, avec le caractère design, depuis toujours, c'est Akira Toriyama. C'est du tour par tour, les musiques même, ce sont les mêmes, enfin voilà, d'un Dragon Quest à un autre. Et celui-ci est vraiment, vraiment épique au niveau de l'histoire, je ne peux pas vous en dire plus sans vous gâcher vraiment l'intrigue, mais il vous retourne la tête, littéralement. Donc si vous ne l'avez pas fait, si vous avez envie de faire un excellent JRPG en tour par tour, je vous recommande Dragon Quest 11, voilà, voilà, voilà. En tout cas, merci à vous trois d'avoir passé ce dimanche après-midi ou soir sur votre fuseau horaire en ma compagnie. Merci à toutes celles et ceux qui étaient dans le chat, mais qui n'ont pas forcément parlé, à part pour dire bonjour quand même, mais c'est toujours sympa. Merci d'avoir participé surtout à ce 78... Ah, pardon, 1, 2, 3, à cette 78e émission, c'est-à-dire que en deux saisons, on a réussi à faire 2x39 épisodes. On est super contents. Voilà, on a encore quelques épisodes qui sont prévus d'ici tout début du mois d'août. Et on vous retrouvera après une petite pause à la rentrée et avec plus d'émissions sur des jeux vidéo aussi. Je peux déjà vous dire qu'on va parler de Assassin's Creed Mirage. Voilà, on va parler de Baldur's Gate 3. Mais voilà, il y a encore d'autres choses à venir. En tout cas, merci à vous trois. Merci à toi, Sonika, d'avoir passé ce moment dans notre compagnie. Merci à toi, François et Frédéric. De même, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai à l'avenir dans le Café Multiverse. Ciao, ciao.